BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigauderie.
Et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de BFM Bourse, édition estivale. Et c'est pas parce que la majeure partie des intervenants sont en vacances qu'il se passe rien sur les marchés. Je peux vous dire que la séance, elle est pleine de surprises, particulièrement aujourd'hui. On s'achemine vers une clôture à la baisse. Moins 0,73% pour le CAC 40 qui devrait terminer sous les 8400 points. 8396 points, on verra ça dans quelques minutes. Avec le fixing, légère surperformance de la tech, on a un Euronext Tech Leaders qui baisse de 0,23%. Tout ceci a des explications logiques et on va les détailler dans la prochaine demi-heure. Un petit coup d'œil du côté de Wall Street où ça va pas très fort. Moins 1,10 pour le Nasdaq et moins 1,56 pour le Dow Jones. Moins 0,81 pour le S&P 500 et puis à nouveau un indice VIX, un indice de volatilité qui se rapproche des 20 points. On est à 19,90. Petit coup de chaud géopolitique à nouveau entre États-Unis et Iran qui explique ça en partie, parce que l'autre grosse partie, et on va en parler très largement pendant cette émission, c'est ce retournement de tendance, cette purge qui se poursuit autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle, mais particulièrement le secteur des semi-conducteurs qui est encore bulle-bouillon ce matin du côté des bourses asiatiques. On a eu de très fortes baisses, il y a eu du moins 6 à Séoul encore malgré des résultats records pour SK Hynix, hein, la société vraiment la grosse major des mémoires. On a également une forte baisse du côté de Tokyo ce matin, moins 1,5%. La bourse de Taïwan aussi qui a bu le bouillon. Bref, on a l'impression d'un gros retour de balancier sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Mais paradoxalement, il est très favorable aux sociétés de services informatiques. Et on en est riche hein, du côté de la bourse de Paris. On va voir qu'il y a des progressions assez spectaculaires du fait de bons résultats et de bonnes perspectives aussi. Il y a également un gros match dans le secteur du luxe depuis le début de la semaine avec les publications de résultats. On a vu que LVMH, c'était tout à fait correct, même s'il y a eu beaucoup d'arbitrage autour de la valeur. On a vu que Kering, et depuis ce matin, c'était la bonne surprise avec une croissance effectivement qui a l'air de repartir au deuxième trimestre. Très forte hausse de Kering, mais alors très forte baisse et douche froide même autour d'Hermès avec des résultats qui étaient pourtant correct, hein. On va essayer de voir si la bourse en fait pas un petit peu trop à ce niveau-là. Le titre perd 11,7% à 1497,50 €. C'est peut-être la plus forte baisse en intraday d'Hermès, on vérifiera ça. Kering, en revanche, s'envole de 15,7% à 289,90 € et on n'aura jamais vu une telle disparité entre titres d'un même secteur. Tout ça, on va y revenir avec nos spécialistes aujourd'hui. Thibaut François de Fastea Capital qui est avec nous en plateau. Bonjour.
Bonjour Antoine.
On sera également avec Étienne Monceau de Zone qui est avec nous en visio, et puis Valentin Nico de Bourse Direct. Valentin, on va peut-être commencer par vous, l'aspect technique autour du CAC 40. C'est vrai qu'on a eu des bonnes performances ces dernières séances et on a l'impression de les sabrer d'un coup, là, de revenir du côté des 8400 points. On va attendre le fixing définitif, mais voilà, on ne sort pas de cette tendance à la volatilité d'un jour sur l'autre, le balancier qui se retourne, et donc un CAC 40 qui termine sur une baisse aujourd'hui.
Ouais, c'est plutôt logique, hein. Comme vous le dites, c'est l'effet balancier de publications plus ou moins positives, hein, jour après jour. D'ailleurs, on s'attend demain éventuellement à une séance pas forcément positive de notre côté. Malgré tout, c'est des moments où il y a énormément d'opportunités, les genres de publications. Donc nous, on est vraiment à l'affût des corrections qui peuvent être trop fortes ou alors de performances auxquelles on s'attendait pas et sur lesquelles des dossiers sur lesquels on revient. Il faut vraiment être en analyse. Nous, on reste positif sur l'indice 1 qui était ultra résistant au contexte géopolitique et puis aux corrections tech qu'on a eu récemment, corrections US, etc. Donc on est positif. On pense qu'il va y avoir éventuellement une latéralisation de l'indice pendant un temps, pendant la période des publications, mais in fine, on estime qu'il y a de grandes chances qu'on rejoigne les plus hauts à 8550 et éventuellement qu'on les casse. Donc nous, on a des résistances à 8490, 8550 hein, sur le moyen terme, et on a un niveau de support sur lequel on fait quand même attention à 8300, qui est la bande basse du trading range des 6 dernières semaines. Et on a comme méga alerte, on va dire, les fameux 8000 points qu'on espère, vu le scénario que je vous ai donné, tenir malgré tout.
Oui, a priori, on en est quand même loin, il reste de la marge. Hein. On
voilà,
est à une centaine de points des 8300, on est à 8396, le fixing dans quelques secondes. Étienne Monceau, zone bourse, peut-être un tout petit mot avant de faire le fixing. On est quand même sur un été beaucoup plus tumultueux qu'on aurait pu croire.
Oui, effectivement. Et aujourd'hui, il y a beau ne pas avoir de stats macro très importantes. Enfin, c'est assez vide du côté agenda macroéconomique. Il se passe énormément de choses sur les marchés. On a non seulement une reprise déjà de ce conflit US-Iran. On a des publications de résultats tous les jours. Aujourd'hui, on a Meta et Microsoft et aussi Airbus, par exemple, en Europe. On a un gros retracement, effectivement, des semi-conducteurs et même de l'IA de manière plus générale. On a un marché qui semble très exigeant hein, au niveau de ses résultats. On voit en tout cas sur la partie tech US que les réactions moyennes à des surprises positives, c'est moins 3,3%. Donc ça donne quand même un petit peu la température. Le marché a l'air extrêmement exigeant avec ses résultats. Alors après, ça explique pas tout. Hein. Peut-être que c'est tout simplement aussi le retracement qui fait que et que ces résultats s'inscrivent dans ce retracement-là. Mais oui, effectivement, il se passe beaucoup de choses. Et puis, il y a la Fed aussi. Il y a cette Fed ce soir avec un statu quo plutôt... Enfin, il y a non seulement une incertitude. On s'est jamais retrouvé, en fait, finalement, dans la journée du rendez-vous. On s'est jamais retrouvé avec une aussi grosse indécision chez les traders entre est-ce que ça va être statu quo ou est-ce que les taux vont monter. On a 30% de chances d'attente que les taux vont monter. Mais on a une Fed voilà qui est très importante avec ce Kevin Warsh qui prend ses marques et cette décision qui va certainement avoir un impact.
Et puis toute la communication autour de la Fed, hein, on en parlait, Kevin Warsh qui voulait la simplifier, qui voulait faire des choses beaucoup plus directes et claires que les précédents rendus de décision. Même la technique hein, sera regardée de près, ce sera un des catalyseurs. On va en reparler hein, bien entendu. Pour l'instant, on fait juste le point sur le fixing, ça y est, et puis on limite bien la casse hein, sur les dernières secondes de cotation. Moins 0,6%, un CAC 40 qui termine tiens au-dessus des 8400 points. C'est peut-être un aspect important, plus symbolique qu'autre chose. Hein. 8408 points, les volumes d'échange quand même pour une séance d'été, 3 milliards d'euros d'actions négociées, donc il y a eu de l'activité. Plus forte baisse, on va y revenir largement, Hermès moins 11%, 1508,50, c'est peut-être une des plus fortes baisses en intraday jamais enregistrées sur le titre. Hein. ST Micro, là aussi, pas trop de surprise, moins 3,5%, 42,90 €. À noter Danone aussi, bah, qui publiait ses résultats ce matin au milieu de l'effervescence, au milieu des publications, le titre a subi une baisse de 2,3% à 70,58 € en clôture. En revanche, en hausse, Kering, superstar du jour dans le secteur du luxe, 16,9% de hausse quand même, 292,85 €. Derrière, on a des valeurs un petit peu plus conservatrices. Tiens, Bureau Veritas qui gagne 7% quand même, 29,27 € après de bons chiffres là aussi. Et puis, tout le secteur des grands disruptés, on va en reparler, hein, toutes ces sociétés de services informatiques, d'intégration, Capgemini, plus 5,3%, 107,10 €. Et puis alors, des résultats exceptionnels et un effet booster hein, justement de ce retour autour des SS2I avec parallèlement une forte baisse des valeurs liée à l'intelligence artificielle. Donc, double effet pour Alten, qui fait 19,5% de hausse en clôture à 79,80 €. Et Sopra Steria, plus 13,6% à 195,60 €. À noter que ça se tend un petit peu sur les taux 10 ans. 3,96 hein, sur le 10 ans français, 3,17 pour le 10 ans allemand, 4,64 pour le 10 ans américain. Et que le pétrole a quand même bien grimpé après une série de frappes et de ripostes entre Iran et États-Unis. On est à 87,70 sur le baril de Brent de Mer du Nord. Thibaut François, Fastea Capital. On va peut-être commencer par ce qui nous tient en haleine depuis le début de la semaine, à savoir ce match effréné hein, dans le secteur du luxe. Alors, le fil conducteur du feuilleton, c'est qu'il y a une reprise très nette sur le deuxième trimestre. LVMH la constate. Kering en profite, Hermès suit la vague. Et pourtant, LVMH a fait, on va dire, pas grand-chose après la publication de ses résultats. Kering, il y avait un effet rattrapage, signe une performance spectaculaire aujourd'hui à quasiment 17% de hausse. Mais alors Hermès, moins 11%, on se le disait avant l'antenne, c'est peut-être bien la plus forte baisse en intraday d'Hermès, de mémoire, mais les résultats n'étaient pas si mauvais. On a l'impression que vraiment, on agit avec Hermès comme on agit sur l'intelligence artificielle ou les semi-conducteurs en ce moment, c'est-à-dire que ouais, ils ont 33,5% de marge. 33,5%, c'est un truc de malade.
C'est nul. Hein.
Et ben voilà, la bourse est en train de nous dire ouais, moins 11. Est-ce qu'ils y vont pas un petit peu fort là, les traders ?
En fait, effectivement, il y a un gros match aujourd'hui sur en France, mais aussi à l'étranger. On le voit bien, Burberry, Richemont, tout ça, ça repart sur le deuxième trimestre, donc c'est plutôt bien. Sur toutes les zones, c'est presque la Chine qui est décevante, un peu partout d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Les États-Unis, le Japon, c'est reparti pleine balle, donc ça, c'est plutôt bien. Le Moyen-Orient et en France, on va attendre le troisième trimestre pour savoir si ça repart ou pas. Mais c'est vrai que le secteur du luxe a l'air de repartir tranquillement. Et bon, alors après, effectivement, la news du jour, c'est quand même Hermès et la grosse baisse, les moins 11%. Alors, la croissance est au rendez-vous, et c'est encore le top player en termes de croissance organique, donc pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai que les marges, il y a une petite déception sur les marges. Et c'est vrai que on a l'habitude d'avoir un Hermès qui améliore ses marges de façon régulière, surtout quand en plus il y a une amélioration de la croissance, enfin la croissance organique qui est au rendez-vous. Et là, c'est vrai que le petit tassement des marges, et surtout sur le deuxième semestre, ils s'attendent aussi à ce que les marges soient plutôt en baisse et sans effet rattrapage sur le reste des activités. Et donc le marché, c'est vrai qu'Hermès est chèrement valorisé. Parce que effectivement, c'est les meilleures marges du secteur, c'est les meilleures croissances organiques du secteur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à un moment donné, est-ce que on commence à comparer et à se dire, d'un point de vue sectoriel, est-ce que le top pick, est-ce que la croissance va pas venir d'un autre acteur? Et c'est vrai que je pense qu'il y a des arbitrages aujourd'hui qui se passent entre un Hermès et forcément un Kering, qui,
ça, alors, c'est sûr,
rien à voir en termes de croissance organique. Aujourd'hui, on retrouve.
Il faut voir d'où ça vient en termes de cours boursiers.
Exactement. Mais par contre, avec l'arrivée du nouveau dirigeant, et ça, c'est ce qu'on savait depuis quelques trimestres, depuis trois trimestres, on savait que les marges allaient s'améliorer. C'est vrai que c'est un cut coaster qui est arrivé quand même à la tête de Kering. Effectivement, en termes de marge, on a une marge, en tout cas une progression qui est possible en termes de BPA. Et donc là, je pense qu'en termes de croissance de BPA, je pense qu'un Kering peut agréablement surprendre dans les prochains trimestres, et je pense que c'est ce que joue le marché, en tout cas à très court terme,
avec peut-être symboliquement un passage à nouveau en territoire positif de la croissance au troisième trimestre pour Gucci. Ça va être tout l'enjeu effectivement ces prochains mois.
C'est pas gagné, mais c'est mieux que prévu quand même. Gucci, c'est moins mauvais que prévu, donc on est à moins 2, c'est pas si mal, c'est vraiment pas si mal,
après du moins 8 le trimestre d'avant. Puis alors ça faisait quoi, ça faisait 18 trimestres qu'ils étaient en baisse. Et là on est sur vraiment l'épaisseur du trait, donc c'est vrai qu'il y a des signes plutôt encourageant, puis il y a des nouvelles collections, puis il y a un nouveau style, puis il y a des nouvelles collabs, donc tout ça plaît peut-être beaucoup au marché. En tout cas, plus 16,9%, 292,85€. Étienne Monceau, Zone Bourse, vous avez regardé un petit peu ce qui se passait autour d'Hermès, bien sûr, aujourd'hui c'est la plus forte baisse, et même question, est-ce que le marché il va pas un petit peu fort selon vous?
Ouais, complètement. Ça montre encore une fois à quel point les marchés financiers, c'est un milieu compétitif et à quel point c'est difficile de prévoir ce qui va se passer, parce que même avec les chiffres, si on nous avait donné les chiffres en avance, on aurait peut-être vu Hermès dans un range moins 1 plus 1% de variation, de réaction de marché. Et puis Kering, oui, on aurait vu peut-être un plus 3, un plus 4. Mais là, les ampleurs sont assez phénoménales et elles sont pas si simples à expliquer. Même, on va pas se prononcer sur essayer d'expliquer pourquoi un moins 11 et pourquoi un plus 14. En tout cas, Kering, oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Il y a ce nouveau dirigeant qui change les choses. Le marché s'y attendait, c'est validé, et on aura peut-être d'encore meilleures surprises à venir. Et Hermès, effectivement, bon, alors déjà, il y a depuis maintenant plusieurs années, il y a vraiment des valeurs de qualité. Les valeurs de qualité ne plaisent plus autant. En fait, il y a d'autres choses à faire sur les marchés que les valeurs de qualité. Elles ne plaisent plus autant aux investisseurs. Donc, ils sont d'autant plus regardants, je pense, sur les valos, sur ces dossiers de qualité. Et c'est vrai que peut-être que le PER de 33-34 de Hermès explique pourquoi le moins 11. Mais je trouve ça quand même assez étonnant.
Ouais, effectivement, mais on était tous étonnés ce matin, parce que ça, un confrère qui tweetait ce matin sur X, qui a posté, qui a vu la réaction à l'ouverture d'Hermès et qui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de fabriquer des sacs à main. Enfin, c'est vrai que la réaction avait de quoi étonner. Ben, notre arbitre sur le secteur du luxe, ce sera Valentin Nico, on avait un analyste technique hier à la même heure qui nous disait, la configuration technique peut-être la plus intéressante du secteur du luxe à Paris, c'est peut-être bien Hermès.
C'est vrai, c'est vrai. Il doit arriver. Ça l'était en tout cas.
Ouais.
Ça l'était en tout cas.
Est-ce que ça change selon vous?
Est-ce que ça change? Oui, ça change clairement d'un point de vue technique. Maintenant, on va quand même attendre suite au choc de la nouvelle, une éventuelle reprise où il pourrait y avoir une bougie surprise demain qui permet de récupérer la majorité de la baisse. Donc on va attendre la fin de semaine avant de statuer sur le sujet. Maintenant, il y a quand même un voilà, un petit détail, c'est que si vous voulez, entre 1550 et 1200 euros, il n'y a pas beaucoup de support. Voilà, le marché pourrait avoir tendance à accélérer fortement si on restait sur ces niveaux d'ici la fin de semaine à la baisse. Donc on reste, oui, on reste méfiant de notre côté. On espère en tout cas que ça reprendra les 1550 d'ici la fin de semaine. Et on serait pas franchement étonné par cela, étant donné la qualité du dossier malgré tout. On serait plus étonné par une forte progression de Kering de l'autre côté, avec le fondamental qui suivrait éventuellement la technique de ces derniers jours, sur lequel on a plus de doutes de notre côté en tout cas.
La meilleure surprise de la semaine, effectivement, c'est ce bien mieux du côté de chez Kering, qui est salué par une hausse de 16,9%, plus forte hausse du CAC, 292,85 €. Du côté des semi-conducteurs, alors ça a été très compliqué ce matin, du côté de la bourse de Séoul, notamment. Maintenant, l'indice Kospi est à moins 40 par rapport à ses derniers plus hauts. À tel point que le gouvernement sud-coréen s'est réuni un petit peu en urgence pour essayer de déterminer ce qu'il faudrait éventuellement faire. On parlait jusqu'à présent de purges, de prises de bénéfices légitimes avec des titres archi-concentrés parce que tout se joue autour des Skyenix qui a publié donc des résultats records ce matin, mais qui n'ont encore pas suffi à remplir les attentes des marchés, à tel point que le titre a plombé toute la séance et le Kospi a encore perdu 6%. On a Samsung aussi qui est une des plus grosses capitalisations du secteur et tout se joue évidemment autour du secteur des mémoires. Thibaut François, votre sentiment autour de cette purge, autour des semi-conducteurs, on a l'impression que le marché est en train de brûler ses idoles d'avant-hier, qui avaient effectivement un niveau d'exigence très fort sur les valorisations, sur la progression, le track record de ces titres. Mais qu'au-delà de ça, on a l'impression d'une sorte de crépuscule des idoles d'un coup. Est-ce que c'est bien raisonnable et bien justifié?
Justifié, oui, parce que ça doit consolider à un moment donné. C'est-à-dire qu'on est dans un momentum, dans une dynamique de croissance, à mon avis, qui est extraordinaire sur les prochaines années. ASMI l'a confirmé tout à l'heure avec la publication, 26, pas de sujet, 27, pas de sujet. C'est-à-dire que quand il y a des boîtes qui disent sur 18 mois, il n'y a pas de sujet de croissance, c'est quand même plutôt intéressant. Et j'ai envie de dire, j'ai même envie de pousser sur 2028. Donc, il n'y a pas de sujet de croissance, la demande est toujours extrêmement forte. Maintenant, les titres ont tellement monté ces dernières semaines et ces derniers mois que des prises de bénéfices, ça me semble tout à fait logique. On le voit sur ASMI, là, ça baisse ce matin alors que la publication est superbe. On l'a vu sur STM la semaine dernière, la publication, allez, il manque un tout petit peu de croissance, mais par rapport aux attendus, mais
c'était franchement
c'était vraiment extrêmement correct. Et surtout, ils sont extrêmement rassurants sur 2026 et 2027. Le marché a besoin de respirer sur les puces. Clairement, les semi-conducteurs ont extrêmement bien monté. Je pense que c'est un secteur qu'il faut avoir en portefeuille dans les prochains trimestres. Mm-hmm. Clairement, maintenant, le marché a besoin de souffler. Donc, ça souffle, c'est assez logique. Ça souffle à une ampleur, on va dire, proportionnelle à la hausse qu'on a eue ces derniers mois. STM gagne encore, fait encore x2 depuis le début de l'année. Mm. Donc, oui, elle a baissé de 30-40% sur les dernières séances. Maintenant, ça avait tellement monté à court terme que c'est assez logique. On le voit aussi avec la volatilité sur un seuil tech. Donc, le marché souffle, ça me semble logique. Je pense qu'il avait besoin de récupérer. Mais par contre, moi, je reste fondamentalement positif sur le secteur. La croissance est au rendez-vous. Je pense que les valorisations ne sont pas stratosphériques aujourd'hui, notamment en France, sur un seuil tech, sur un STM notamment. Et je pense qu'on va retrouver une dynamique, à mon avis, dans les prochaines semaines, qui va être beaucoup plus intéressante sur le secteur. Encore une fois, on a une grosse visibilité sur le secteur avec une grosse croissance. Donc pour moi, le secteur est encore à privilégier dans les prochains trimestres.
Bon, malgré tout, il y a des inquiétudes. Alors, les inquiétudes sur l'IA, on les connaît, c'est rentabilité des capitaux qui sont investis, des capex géants, etc. Et puis, crainte aussi de la disruption. La grande nouvelle aussi de ce début de semaine, c'est de voir la Chine qui arrive techniquement, technologiquement, à faire pareil que les acteurs américains et que les acteurs européens, avec des grands acteurs, notamment du côté des mémoires, un acteur qui s'est introduit en bourse qui a gagné 500%, avec maintenant des fabricants de machines de lithographie, un petit peu comme celle d'ASML, qui est une sorte de monopole mondial. Maintenant, des technologies chinoises qui sont en train d'apporter de la concurrence et peut-être des pressions sur les prix. La question qu'on se posait, Étienne Monceau, c'est peut-être votre sentiment chez Zone Bourse, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, alors d'une manière tout à fait différente, mais autour de ce secteur des semi-conducteurs, à cause justement de la crainte de cette menace chinoise qui est en train d'avancer ses pions? Est-ce qu'on n'est pas sur un deuxième moment deep-seek ou quelque chose de cet ordre-là?
Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans toute cette phase de bull run, on a accumulé des catalyseurs baissiers que le marché ne voulait pas regarder et que ça mépris le conteneur sous pression. Et puis ensuite, il suffit d'une étincelle et puis boum, tous les médias vont citer les uns après les autres tous ces catalyseurs baissiers. Et puis on va pas avoir que le terme prise de bénéfice, on va avoir des trucs tangibles qui vont suivre derrière. Un peu plus précis, et donc effectivement on a ce retour de « ah bah oui, les puces mémoire c'est cyclique, les semi-conducteurs de manière générale c'est cyclique, on est sur le top des marges qui seront réalisées peut-être dans l'histoire ». Là on a la Chine qui se met à faire du DUV, donc bon, il faut quand même se dire que c'est à long terme, hein. il y a encore 10-15 ans devant nous avant qu'ils se mettent à faire de l'EUV avec les rendements que ASML permet d'obtenir pour TSMC et ses autres clients, etc. Mais c'est quand même une grosse annonce. Il y a de retour le sujet de la cannibalisation, de la circularité, vous savez, de tout ce marché de l'IA, avec l'histoire de Nvidia qui back les financements de OpenAI sur ses data centers en Ohio auprès de SoftBank pour acheter leurs propres puces. Donc on a tous ces sujets qui reviennent sur la table et qui font peut-être que finalement c'est pas juste une consolidation, mais on a vraiment une vraie correction quand même avant de rentrer dans une phase de range. Là on est toujours dans une belle chute, dans un beau retracement, mais comme vous l'avez rappelé aussi également, parce qu'on le voit très bien en France avec Soitec et STM, on a toujours des perfs qui si on dézoome un petit peu, qui sont absolument extraordinaires, et on est quand même sur un marché où, même si on a des doutes sur la demande, parce que cette demande elle est difficile à chiffrer, elle est floue à cause justement de cette circularité, on a quand même un marché qui va très bien, hein, et qu'on n'a pas envie, on est obligé d'en avoir en portefeuille tout simplement. Et d'ailleurs, dernière petite info, Morgan Stanley a publié un rapport ces derniers jours où ils estimaient le ROIC des hyperscalers. Alors là, on n'est pas sur les puces mémoire, mais on est vraiment sur les hyperscalers, ceux qui achètent des puces, qui les mettent dans des data centers et qui ensuite louent la puissance de calcul à d'autres entreprises. Et ce serait une activité avec un ROIC au-delà de 30%. Ce qui est quand même considérable et qui vient rebattre un petit peu les cartes et changer l'opinion de certaines personnes sur la capacité de cette industrie à créer de la valeur.
Oui, c'est une donnée même super intéressante, dans le sens où c'est la grosse interrogation, c'est qu'est-ce que vont rapporter de manière générale, en moyenne, les capitaux gigantesques investis. Et donc, 30% pour Morgan Stanley de ROI. Donc, merci pour cette donnée, on va se la garder à l'esprit. Valentin Nicot, on voit que tout ça provoque des tornades boursières jour après jour, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, du côté de Séoul, Taïwan bien sûr, et même Tokyo, où il y a des grands acteurs des semi-conducteurs, notamment du côté des sociétés de test. Là, on rentre dans la technique, mais ça explique aussi les gros mouvements qu'il y a. Est-ce qu'il y a... Séoul, on a presque l'habitude, parce qu'il y a deux titres qui font le marché, c'est Samsung et SK Hynix. Ouais. Encore une fois, il y a eu des résultats records, mais qui ont été largement vendus ce matin pour SK Hynix. Est-ce qu'il y a une place boursière qui suscite un petit peu votre inquiétude? On a vu quand même il y a quelques années que souvent le vent mauvais, il vient d'Asie, il arrive l'été, il provoque des grosses paniques boursières.
Alors, nous, on était plutôt inquiets justement par ce phénomène de concentration sur cette thématique-là, globalement, sur toutes les zones géographiques. Et donc, c'est absolument tout ce qui était lié à l'IA et notamment surtout aux processeurs qui dirigeaient le marché. Donc on est plutôt rassuré par ces prises de bénéfices et ces doutes qui se mettent en place, parce que quand vous avez des phénomènes aussi haussiers, il paraît normal que le moindre doute, comme là avec l'effet DeepSeek, comme vous l'avez dit en Chine, sur un éventuel cœur de métier qui pourrait être rapidement copié par des Chinois à moindre coût. Bon, tout de suite, en fait, ça fait poser beaucoup de questions aux investisseurs, et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'en fait, la hausse tenait peut-être pas à grand-chose, en tout cas, je dirais même l'euphorie. Et là, on revient peut-être sur des bases à peu près normales en termes de valorisation. Comme vous l'avez dit, votre premier intervenant, il va y avoir un moment où il va y avoir des dossiers très intéressants, et d'ailleurs, je pense qu'on approche sur pas mal de dossiers de certaines zones d'achat. Mais c'est des phénomènes, plutôt rationnels et sains de marché. Donc, on est plutôt rassuré par les derniers événements de notre côté.
Bon, mais écoutez, au moins c'est clair. Thibaut François, tiens, parmi les choses étonnantes du jour, c'est vrai qu'on est resté sur un mouvement très, très étonnant, mais qu'on commence à modéliser un petit peu. C'est-à-dire que globalement, quand l'IA inquiète, que les semi-conducteurs inquiètent, ça fait grimper les grandes disruptées, hein, les sociétés de services informatiques. Mais là, on a un double effet. Sur Alten, sur Soprasteria, aussi sur Capgemini, hein, sur le CAC, qui a pris 5,3%, Alten plus 19,5%, plus 13,6% sur Soprasteria. Là, en plus, sur ces deux dernières, on a des groupes qui nous disent, à travers leurs chiffres, je traduis un petit peu, ça commence à bien faire, la SaaSpocalypse. Nous, on ne voit rien, on relève nos prévisions. Et au contraire, on a des carnets de commandes et on a des contrats super intéressants. En plus, lié à l'émergence de l'IA, pour intégrer tout ça au sein des entreprises, est-ce que ce n'est pas la plus belle des manières de démontrer que non, il n'y a pas de grand disrupté, tout le monde doit travailler main dans la main et que les sociétés de logiciels vont être au cœur du truc?
Et effectivement, ils sont en train de les publications qu'on vient de voir. Effectivement, on a Sopra et Alten, on a eu OB la semaine dernière, on a Capgemini tout à l'heure. Ça confirme effectivement, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que les ESN aujourd'hui, elles ont des entreprises en face d'elles qui effectivement, ils travaillent plutôt sur la partie digitale depuis quelques années, notamment depuis le Covid. Et là, aujourd'hui, le marché s'est dit, l'IA arrive, c'est la fin des ESN. Alors que non.
Et c'est devenu un réflexe conditionné, je
direct,
dirais.
Direct. Il y a la partie logicielle où effectivement on peut davantage en discuter, mais la partie ESN, c'est-à-dire que il va falloir quand même quelqu'un qui puisse mettre en place la partie intelligence artificielle dans les boîtes.
Et les données qui sont la base, c'est eux qui les ont.
Exactement.
Bah oui.
C'est-à-dire que les bases de données sont là, le client, ils l'ont en face d'eux, donc effectivement, oui, on va en mettre en place la partie intelligence artificielle avec vous. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, de la croissance organique, on en a. Effectivement, on a eu un peu moins de visibilité parce qu'on s'est fait peur aussi sur le marché. Mais là, Alten ou Sopra, ils ont été très clairs. La croissance organique revient. On est plus à l'aise sur la fin de l'année parce qu'effectivement, on a des contrats qui sont en place et on n'a pas forcément aujourd'hui de contrats qui sortent. Et donc, on rassure sur les perspectives 2026 et on améliore même les perspectives 2026. Et on voit bien que les marges augmentent. Alten se mouille et on attend plus d'un pour cent de marge opérationnelle sur l'année 2026. Donc tout ça, forcément, on pensait que c'était la fin du monde sur les ESN. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit, finalement, elles vont peut-être rester et elles vont peut-être bénéficier de cette intelligence artificielle. Et donc, on a des rebonds qui sont extraordinaires ce matin, tout cas aujourd'hui sur le marché. Ouais. Plus 19 sur Alten, plus 14 ou plus 15 sur Sopra. Et on va voir un petit peu si le leader français sur le marché, Capgemini, confirme un petit peu ces chiffres, et ça va être intéressant de voir un petit peu ce que va dire Capgemini tout à l'heure.
Dassault Systèmes, qui est aussi parmi les grands disruptés dans ces mouvements de marché, termine à l'équilibre, 21,01€, mais effectivement des performances impeccables pour nos SS2I françaises. Messieurs, merci. Étienne Manceau, Zone Bourse, merci d'avoir été avec nous. Valentin Nico, Bourse Direct, et Thibaut François, Fastea Capital.